RCF.
On l'a évoqué de manière, disons, un peu transversale à travers tous ces entretiens, Sébastien Fatt, mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre avec vous pourquoi le gospel, ça fonctionne, pourquoi ça marche, pourquoi ça rejoint encore aujourd'hui un public alors qu'on l'a vu, les racines de ce genre musical sont quand même désormais éloignées de nous dans le temps et puis, Dieu merci, dans la réalité de l'Amérique d'aujourd'hui.
Oui, pourquoi les publics se pressent dans les salles? Pourquoi d'ailleurs aussi les candidats à l'interprétation du gospel se bousculent, y compris d'ailleurs quand ils ne sont pas chrétiens? Pourquoi cette attractivité? Alors je crois qu'une des raisons qui explique le succès de cette musique aujourd'hui doit s'articuler au soubassement spirituel et religieux de cette musique. N'en déplaise à certaines présentations qui sont parfois faites de mouvements issus du christianisme où on a tendance à vouloir totalement déconnecter le militantisme des valeurs. Et je pense notamment à Martin Luther King qu'on présente parfois indépendamment de son arrière-plan chrétien. Je crois que c'est dommage parce que dans une laïcité bien comprise, il est important de montrer que toutes les familles de pensée, y compris les familles spirituelles, contribuent à la coexistence, contribuent au vivre ensemble, contribuent à faire société. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le gospel, si ça marche, c'est parce que derrière, il y a un message porté par une spiritualité. Ce message, c'est de dire le mal est là, il y a une souffrance, il y a une injustice, il y a une situation intolérable. Donc il y a un regard sans concession qui est porté sur la réalité du mal et qui est souvent présenté sous la forme de l'esclavage, hein, et esclavage qui peut être compris de manière sociale mais qui peut être aussi compris d'autres manières, y compris du point de vue spirituel. Donc il y a une réalité qui est celle de la souffrance. Et je crois qu'il n'y a rien de plus universel au niveau de l'expérience humaine que cette souffrance. Dans la condition humaine, il y a de la souffrance. C'est là, c'est présent. Mais à partir de là, comment fait-on? Et ce qui est très intéressant dans la musique gospel, c'est qu'il y a une réponse qui est apportée. Et qui n'est pas apportée sur la base de la contre-attaque, de l'œil pour œil, dent pour dent, de la revanche. Nous avons souffert, vous nous avez fait souffrir, nous allons vous rendre la monnaie de votre pièce. On n'est pas sur cette base-là. On est sur la base d'un dépassement de la blessure, de la souffrance, au nom d'un des aspects du message chrétien, qui est celui du pardon, qui est un aspect fondamental du message chrétien. C'est-à-dire qu'on va essayer, par le pardon, de dépasser la situation d'impasse dans laquelle se trouve la relation, dans laquelle se trouve une société donnée, pour aboutir à une situation de réconciliation.
Donc une forme de résurrection.
Une forme de résurrection, absolument. Et je crois que ça répond à des besoins très profonds dans notre société, particulièrement dans l'Hexagone. Nous vivons depuis quelques années une situation sociale et culturelle tendue. Il ne faut pas se cacher derrière les mots. Où les marchands identitaires font fortune, où les tensions sont nombreuses et où les surenchères à la revanche, au conflit, abondent également. Et tout cela crée beaucoup de stress, crée beaucoup d'inquiétude. Et il y a besoin d'autres réponses que simplement la surenchère. Et le gospel a ceci de particulier qu'il pointe la souffrance, la difficulté, mais apporte en même temps de la restauration, apporte de la coexistence, apporte une plus-value en matière de vivre ensemble et apporte de l'espérance. C'est la résilience de Boris Cyrulnik plus l'espérance. Le gospel, c'est ça. C'est la résilience plus l'espérance.
Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but and nobody knows the trouble I see. Glory Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord.
La suite de l'histoire.
Et c'est en cela qu'on peut parler, je crois, à bien des égards, d'une musique restaurative, en analogie avec ce qu'on appelle la justice restaurative. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est
que
la justice restaurative ? La justice restaurative, c'est une justice qui sanctionne le mal, qui sanctionne celui qui a commis un délit. Donc, il y a un processus de réparation, de sanction, d'incarcération, bien souvent. Mais à partir de là, on va travailler aussi à reconstruire le détenu. On va travailler à restaurer le détenu, de manière à ce que lorsqu'il sort de prison, il soit finalement une meilleure personne que lorsqu'il est entré. Ce qui, du point de vue de l'intérêt général, d'ailleurs, est plutôt bien vu, me semble-t-il, parce que on peut comprendre qu'il est probablement préférable pour la société qu'un détenu sorte de prison avec de bonnes intentions et avec un projet de réinsertion, plutôt qu'avec la rage. Et le gospel, précisément, c'est cette optique restaurative. On pointe le mal, on pointe l'esclavage, on pointe les difficultés. La souffrance, elle est perceptible dans les répertoires des spirituals et du gospel. Mais au lieu d'en rajouter dans la surenchère, on va pointer vers la restauration, on va pointer vers le pardon, on va pointer vers la grâce. Il y a une issue possible, on appelle à la réconciliation et de très nombreux répertoires contemporains du gospel francophone et notamment des gospels d'Afrique de l'Ouest, des Caraïbes, mettent l'accent sur cette dimension restaurative et manifestement ça plaît beaucoup puisqu'encore une fois, de très nombreux publics, qu'ils soient chrétiens ou pas, rejoignent ces chorales. Puis alors, je crois qu'un autre élément aussi qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on n'est pas dans une musique religieuse classique.
Alors voilà, tout ça est quand même sous-tendu, englobé ou enrichi par la musique. Et il n'y a pas peut-être de moyen de communication plus universel que la musique.
Absolument, d'autant plus que là, on est vraiment dans une musique que je qualifie de spirituelle, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la musique religieuse ou de la musique sacrée. Le sacré sépare. Techniquement, le sacré sépare. La musique...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Parce qu'il y a ce qui est sacré et il y a ce qui ne l'est pas. Au niveau de l'anthropologie religieuse, on a cette distinction classique.
Sacré, profane.
Voilà, sacré et profane. Les spirituals et le gospel, au contraire, incluent tout le monde. On est, je dirais, dans la perspective au départ protestante, mais du sacerdoce universel, c'est-à-dire que tout le monde, au travers de cette musique, peut se rapprocher de Dieu. Il n'y a pas de principe de séparation. Et ça plaît aussi beaucoup.
Une musique
parce que concrètement, aujourd'hui, ça veut dire
donc.
Quoi ? Voilà, restaurative et inclusive. Et concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire que les chorales gospel sont très très rarement confessionnalisées. C'est des chorales qui sont multiconfessionnelles. Vous avez des protestants, vous avez des catholiques, vous avez des gens qui viennent de tous horizons chrétiens et qui viennent même d'horizons non chrétiens. J'ai à plus d'une fois, lorsque j'ai eu l'occasion d'intervenir sur ces sujets, je me suis fait approcher ensuite par des choristes qui me disaient « mais vous savez, moi je suis pas chrétien ». Je me souviens notamment à Marseille, un choriste qui se définissait comme athée et en même temps bouddhiste, qui me disait « mais je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites parce que le gospel lui parle, il aime chanter le gospel et pour autant il n'est pas nominalement chrétien, il ne se reconnaît pas dans la tradition chrétienne, mais il y a quelque chose dans cette musique qui transcende ses appartenances particulières, qui lui font du bien et du coup il me disait « mais je participe avec beaucoup de plaisir à cette chorale ». Alors cela dit, au bout de quelques années, on s'aperçoit que certains des choristes qui au départ ne sont pas chrétiens le deviennent parfois, ça peut arriver.
Sont touchés par ce qu'ils chantent,
absolument.
Puis c'est une expérience de groupe.
C'est une expérience de groupe, effectivement, et c'est une expérience très inclusive qui porte et donc qui peut conduire effectivement par moment à des scénarios de conversion, mais c'est pas une musique qui est dans le prosélytisme ouvert non plus, c'est pas une musique qui est enfermante, c'est pas du tout une musique qui milite pour telle ou telle étiquette confessionnelle et du coup on se sent très à l'aise et les publics affluent quelle que soit leur origine convictionnelle.
Et il faut peut-être souligner que du gospel, vous l'avez déjà dit rapidement mais redisons-le, sont nés d'autres types de musique beaucoup plus actuelle, beaucoup plus peut-être moderne ou typée, je ne sais pas comment dire. Mais vous parliez du rap, par exemple.
Absolument, le rap qui mériterait sans doute aussi des émissions. Là, c'est un genre plus récent, le rap chrétien.
Mais enraciné dans le gospel.
Effectivement, qui vient au départ en partie du gospel, mais qui s'en distingue sur certains accents. Je dirais en particulier qu'une des spécificités du rap, c'est qu'il a une fonction fortement prophétique. Il met en tension l'insatisfaction présente face à une perspective de changement, de revendication qui est plus véhémente, qui a une dimension
il y a plus de colère
de revendication
dans le rap, hein.
Et peut-être aussi de colère, effectivement, de colère prophétique qu'on ne trouve pas de la même manière dans le gospel.
Bon, vous reviendrez pour parler du rap alors.
Avec
Sébastien
plaisir.
Fatt, merci beaucoup en
merci.
Tout cas d'être venu nous parler de l'histoire du gospel. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste du protestantisme, notamment évangélique, et je rappelle également à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver vos ouvrages, et en particulier paru chez Empreinte Temps Présent en 2016, Gospel et Francophonie, une alliance sans frontières. Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci à Xavier François qui a assuré la technique de cet enregistrement.
Thank you.